Chapitre 4. Contenant le secret infaillible de s'attirer la haine et le mépris de tout le monde. La jeune dame n'eut pas plutôt posé la tête sur son oreiller que sa femme de chambre revint à la cuisine pour se régaler de quelques-uns de ces mets délicats que sa maîtresse avait refusés. Dès qu'elle entra, ceux qui étaient dans la cuisine lui témoignèrent, en se levant, le même respect qu'ils avaient montré un moment auparavant à sa maîtresse. Mais elle oublia de l'imiter en les priant de se rasseoir. Il est vrai que cela leur eût été à peu près impossible, car elle avait placé sa chaise de manière à cacher presque tout le feu. Puis elle demanda qu'on lui fît griller un poulet sur le champ, déclarant que s'il n'était pas prêt dans un quart d'heure, elle ne l'attendrait pas. Quoique le dit poulet fût encore sur son juchoir dans le poulailler, et qu'il exigea plusieurs cérémonies telles que de l'attraper, de le tuer et de le plumer, avant qu'on pût le mettre sur le grill, l'hôtesse aurait entrepris de faire toutes ces choses dans le temps donné. Mais malheureusement, sa convive étant sur le lieu de la scène, se serait aperçue de la fourberie. La pauvre femme fut donc obligée d'avouer qu'elle n'en avait pas dans la maison. « Mais, madame, dit-elle, je peux vous procurer à l'instant même, de chez le boucher, tout ce que vous pourrez désirer en mouton. » « Pensez-vous donc, répondit madame la femme de chambre, que j'ai un estomac de cheval pour manger du mouton à cette heure de la nuit? Vous autres aubergistes, vous croyez que vos supérieurs sont comme vous. Je m'attendais bien, en effet, que je ne trouverais rien dans cette misérable auberge, et je suis bien étonné que ma maîtresse ait consenti à s'y arrêter. Je suppose qu'il ne loge ici que des artisans et des marchands de bestiaux. » L'hôtesse prit feu à cette insulte faite à sa maison. Cependant, elle réprima sa colère et se contenta de dire « Des gens de très bonne qualité viennent ici fréquemment, grâce au ciel. » « Ne me parlez pas de qualité, s'écria l'autre. Je crois que je connais plus de gens de qualité que vous autres. Mais je vous prie, sans m'étourdir d'aucune de vos impertinences, dites-moi ce que vous pouvez me donner pour souper, car quoique je ne puisse pas manger de la chair de cheval, j'ai réellement faim. » « Véritablement, madame, répondit l'hôtesse, vous ne pouviez jamais me prendre autant au dépourvu que je le suis. Car je dois vous avouer que je n'ai rien autre chose dans la maison qu'un morceau de bœuf froid, que le domestique d'un gentilhomme et le postillon ont presque nettoyé jusqu'à l'os. « Femme, dit Mrs. Abigail, nous l'appellerons dorénavant ainsi pour abréger, vous me faites mal au cœur. Quand j'aurai jeûné tout un mois, je ne mangerai pas de ce à quoi ces gens-là ont touché avec leurs doigts. Ne peut-on donc rien trouver de propre ni de convenable dans cet horrible lieu? Pourrait-on vous offrir quelques œufs et une tranche de jambon? Vos œufs sont-ils frais? Êtes-vous sûr qu'ils soient pondus d'aujourd'hui? Coupez-moi, je vous prie, votre jambon très mince et très proprement, car je ne puis souffrir les gros morceaux. Tâchez, je vous prie, de faire du moins une fois encore dans votre vie quelque chose d'une manière un peu tolérable. Et ne croyez pas avoir chez vous une femme de fermier ou quelque créature de cette espèce. L'hôtesse se mit alors à prendre son couteau, mais l'autre l'arrêta en lui disant « Bonne femme, j'exige que vous laviez d'abord vos mains, car je suis extrêmement propre et j'ai été accoutumé dès mon enfance aux choses les plus recherchées. » L'hôtesse, qui avait beaucoup de peine à se contenir, se mit en devoir de la servir, car la proposition d'en charger Suzanne avait été formellement rejetée, et avec un dédain si marqué que la pauvre fille n'avait pas moins de peine à contenir ses mains que sa maîtresse en avait eu à contenir sa langue. Suzanne, cependant, ne put prendre sur elle de s'imposer un silence absolu. Car bien que, littéralement parlant, elle n'adressa pas la parole à Mrs. Abigail, elle murmurait entre ses dents « Très dame, je suis de chair et d'os comme vous, et d'un aussi bon acabit », avec beaucoup d'autres phrases de cette espèce, toutes dictées par la plus vive indignation. Tandis qu'on préparait le souper, Mrs. Abigail se reprochait en gémissant de ne pas avoir ordonné qu'on fît du feu dans le parloir. Mais elle se consola en disant qu'il était maintenant trop tard, quoique, ajouta-t-elle, ce soit une nouveauté pour moi d'habiter une cuisine, car je ne crois pas que j'y ai mangé de ma vie. Puis, se tournant vers les postillons, elle leur demanda pourquoi ils n'étaient pas à l'écurie avec leurs chevaux. « Si je suis condamnée à faire ici mauvaise chair, madame, s'écria-t-elle, s'adressant à l'hôtesse, j'exige au moins que l'on débarrasse la cuisine, en sorte que je ne sois pas entourée de tous les polissons de la ville. » « Quant à vous, monsieur, dit-elle à Partridge, vous avez l'air d'un homme assez bien né. Vous pouvez rester là si vous voulez. Je ne veux éloigner de moi que la canaille. » Oui, certes, madame, dit Partridge, je suis un homme bien né, je vous en réponds. Et on ne me chasse pas si aisément qu'on pourrait le croire. Non semper vox casualis est verbo nominativus. Elle prit ce latin-là pour une injure et répondit, vous pouvez être un homme bien né, monsieur, mais vous ne vous annoncez pas pour tel en parlant latin à une femme. Partridge fit une réplique polie, qu'il termina encore par quelques mots latins. La demoiselle se renfrogna encore davantage et se contenta de cette grosse injure. « Vous êtes un savant homme, monsieur. » Le souper servi, Mrs. Abigail mangea de très bon appétit pour une personne aussi délicate. Et tandis qu'on lui préparait par son ordre un second service de la même espèce, « Ainsi donc, madame, dit-elle, vous prétendez que votre maison est fréquentée par des gens de la plus haute qualité. » L'hôtesse répondit affirmativement, en disant qu'en ce moment même, elle avait chez elle un grand nombre de gens de la première qualité et des gentilshommes. Entre autres, le jeune Allworthy, comme monsieur ici présent, peut vous l'attester. Et je vous prie, quel est ce jeune homme de qualité, ce jeune Allworthy, dit Abigail. Qui pourrait-ce être, répondit Partridge, sinon le fils et l'héritier du grand seigneur Allworthy de Somersetshire. Sur ma parole, répliqua-t-elle, vous m'apprenez là d'étranges nouvelles, car je connais parfaitement M. Allworthy de Somersetshire, et je sais qu'il n'a pas de fils vivant. » L'hôtesse écouta ceci avec la plus grande attention, et Partridge eut l'air un peu confus. Cependant, après un moment de silence, il répondit, « Cela est vrai, madame. Je conviens que tout le monde ne le connaît pas pour être le fils du gentilhomme Allworthy, qui, en effet, n'épousa jamais sa mère. » Mais il est aussi certain qu'il est son fils et sera son héritier, qu'il est certain qu'il s'appelle Jones. » À ce nom, Abigail laissa tomber le morceau de jambon qu'elle portait à sa bouche et s'écria, « Vous me surprenez, monsieur. Est-il possible que monsieur Jones soit dans cette maison à l'heure qu'il est ?»« Quare non, pourquoi pas ?» répondit Partridge. « Cela est possible, car cela est certain. » Abigail se dépêcha d'avaler le reste de son souper et retourna vers sa maîtresse, avec laquelle elle eut une conversation qu'on pourra lire dans le chapitre suivant. Chapitre 5. Où l'on verra quelle était l'aimable dame et sa haïssable suivante. Comme au mois de juin la rose de Damas, que le hasard a fait fleurir au milieu des lys, mêle son beau vermillon à leur blancheur éblouissante, ou comme une génisse folâtre dont l'haleine est embaumée par le parfum des fleurs qui tapissent la prairie dans l'agréable mois de mai, ou, comme au mois d'avril, la douce, la constante tourterelle, perchée sur une branche à l'ombre des feuilles nouvelles à côté de son amant dont elle est uniquement occupée, non moins belle, et son haleine répandant une odeur non moins parfumée, ses pensées fixées sur son cher Tommy, et le cœur aussi pur, aussi bon que son visage était beau, Sophie, car c'était elle-même, était couchée, sa tête charmante appuyée sur son bras, quand sa suivante entra dans la chambre en courant droit à son lit. « Madame, madame, qui, madame, croit-elle qu'il soit dans la maison ?» Sophie, se relevant avec effroi, s'écria, « Mon père serait-il déjà parvenu à nous atteindre ? J'espère que non. »« Non, madame, c'est quelqu'un qui vaut 100 pères à lui tout seul. Monsieur Jones lui-même est ici en ce moment. »« Monsieur Jones, dit Sophie, il n'est pas possible. Je ne peux pas être assez heureuse pour cela. » Sa femme de chambre lui ayant attesté le fait, fut dépêchée sur le champ pour l'engager à se rendre auprès d'elle. « Je veux, ajouta Sophie, je veux le voir à l'instant. » Mrs. Honora n'avait pas eu plus tôt quitté la cuisine que l'hôtesse exerça rudement sa langue à son sujet. La pauvre femme avait pendant quelque temps laissé accumuler sur son cœur un torrent d'injures qui sortirent alors de sa bouche aussi précipitamment que la boue s'écoule d'un tombereau lorsqu'on en a ôté la planche qui la retenait. Partridge en jeta aussi sa part, et, ce qui surprendra le lecteur, non seulement il en éclaboussa la femme de chambre, mais il essaya encore d'entacher l'aimable caractère de Sophie elle-même. « Les harengs d'un même baril ne valent pas mieux l'un que l'autre, dit-il. Noscitur a socio est un proverbe bien vrai. Il faut convenir cependant que la dame aux beaux habits est la plus polie des deux. Mais je garantirais bien qu'en effet, elles ne valent pas mieux l'une que l'autre. Ce sont deux coureuses de Bath, je vous en réponds. Des gens de qualité ne voyagent pas à cheval à 7 heures de la nuit sans domestique. »
Par ma foi, cela est vrai, s'écria l'hôtesse. Certainement vous avez deviné juste, car des gens de qualité ne viennent point loger dans une maison comme la mienne sans commander à souper, qu'ils aient faim ou non.
Pendant qu'il discourait ainsi, Mrs. Honora rentra dans la cuisine et s'acquitta de sa commission en ordonnant à l'hôtesse d'aller réveiller M. Jones sur le champ et de lui dire qu'une dame avait à lui parler. L'hôtesse la renvoya à Partridge en disant qu'il était l'ami du jeune homme, mais que, quant à elle, elle ne réveillait jamais personne, surtout des gentilshommes. En disant ces mots, elle sortit de la cuisine avec humeur. Honora s'adressa alors à Partridge, qui la refusa également. « Car mon ami, dit-il, s'est couché fort tard, et il serait très fâché d'être réveillé de si bonne heure. »
Mrs. Honora insista, en disant qu'elle était sûre qu'au lieu d'être fâché, il serait au comble de la joie, quand il saurait le motif pour lequel on l'aurait fait lever.
« Dans un autre moment, peut-être, vous auriez raison. Mais non omnia possumus omnes. Tous tant que nous sommes, nous ne pouvons pas tout faire.
Une femme à la fois est bien assez pour un homme raisonnable. »
« Qu'entendez-vous par une femme, impudent ? » s'écria Honora.
« Il n'y a point d'impudence à cela, » répondit Partridge.
Il l'informa alors de la meilleure foi du monde que Tom était couché avec une femme, en employant ici une expression trop grossière pour que je me permette de la répéter. Ce qui mit Mrs. Honora dans une telle fureur qu'elle l'appela impertinent et retourna avec la plus grande précipitation vers sa maîtresse, qu'elle instruisit du succès de son message et des nouvelles qu'elle avait apprises. Elle les exagéra encore, s'il est possible, étant aussi en colère contre Jones que s'il eût prononcé lui-même tous les mots sortis de la bouche de Partridge. Elle accabla le maître d'injures et conseilla à sa maîtresse de ne plus désormais penser à un homme qui ne s'était jamais montré digne d'elle. Elle rouvrit alors des anciennes plaies de Sophie en rappelant l'histoire de Molly Seagrim et donna le tour le plus perfide à la manière dont il avait quitté Sophie elle-même. Il faut avouer que la circonstance actuelle ne favorisait que trop cette dernière supposition. Cette nouvelle avait tellement accablé Sophie qu'elle n'avait pas eu la force d'imposer plutôt silence à Mrs. Honora. Elle prit cependant sur elle de l'interrompre en disant « Je ne puis croire tout ceci. Quelque méchant l'aura calomnié. Vous dites que vous le tenez de son ami. Mais sûrement ce n'est pas l'office d'un ami de trahir de pareils secrets.
Je suppose, dit Honora, que cet homme est son vil complaisant, car je n'ai jamais vu de coquin porteur d'une plus mauvaise physionomie. D'ailleurs, des libertins tels que M. Jones ne rougissent jamais de ces sortes de choses.
À dire le vrai, cette conduite de Partridge n'était guère excusable. Mais il n'avait pas dormi assez longtemps pour cuver toute la liqueur qu'il avait bu la veille au soir, à laquelle elle avait encore ajouté dans la matinée plus d'une pinte de vin, ou plutôt d'eau-de-vie faite avec de l'orge, car le poiré était bien loin d'être pur. Or, la partie de sa tête que la nature avait destinée à être le réservoir de la boisson, étant fort peu profonde, il n'en fallait qu'une petite quantité pour déborder et ouvrir les écluses de son cœur, en sorte que tous les secrets qui y étaient déposés s'en écoulaient rapidement, ses écluses étant déjà naturellement mal assurées. Pour justifier autant qu'il est en nous son caractère, nous dirons que c'était un très honnête homme, car comme il était le plus curieux de tous les mortels, et éternellement occupé à pénétrer les secrets des autres, il les en dédommageait avec la plus scrupuleuse fidélité, en leur communiquant en revanche tout ce qui parvenait à sa connaissance. Tandis que Sophie, tourmentée d'inquiétude, ne savait ce qu'elle devait croire ni quelle résolution elle devait prendre, Suzanne arriva avec le sac ouais qu'elle avait commandé. Aussitôt, Mrs. Honora conseilla tout bas à sa maîtresse de sonder cette fille, qui probablement pourrait l'instruire de la vérité. Sophie approuva cette idée et l'interrogea en ces termes. « Venez ici, mon enfant, répondez-moi la vérité sur ce que je vais vous demander, et je vous promets que je vous en récompenserai magnifiquement. Y a-t-il dans cette maison un jeune homme, un beau jeune homme qui... » Sophie, en cet endroit, rougit et parut confuse.
« Un jeune homme, dit Honora, qui est venu ici avec cet impudent coquin qui est à présent dans la cuisine. »
Suzanne répondit qu'il y était en effet dans ce moment.
« Savez-vous quelque chose d'une certaine dame ?» continua Sophie. « D'une certaine dame... Je ne vous demande pas si elle est jolie ou non. Peut-être ne l'est-elle pas. Cela ne fait rien à l'affaire dont il s'agit. Mais savez-vous quelque chose d'une certaine dame ?
Bon, madame, s'écria Honora, vous n'entendez rien à faire des questions.
Écoutez, mon enfant, dit-elle, ce jeune homme-là même n'est-il pas en ce moment couché avec quelque misérable coureuse ?
Suzanne sourit et garda le silence.
Répondez à cette question, mon enfant, dit Sophie, et voici une guinée pour vous.
Une guinée, madame, dit Suzanne. Qu'est-ce que c'est qu'une guinée ?
Si ma maîtresse le savait, je perdrais sûrement ma place au moment même.
En voici encore une autre pour vous, dit Sophie, et je vous proteste que votre maîtresse n'en saura rien.
Suzanne hésita encore un moment, prit l'argent et raconta toute l'histoire qu'elle termina ainsi.
Si vous en êtes bien curieuse, madame, je peux me glisser tout doucement dans sa chambre et je verrai bien s'il est ou non dans son lit.
Ce qu'elle fit aussitôt du consentement de Sophie. Elle ne tarda pas à revenir avec une réponse négative. Sophie devint aussitôt pâle et tremblante. Mrs. Honora l'engagea à prendre courage et à ne plus penser à un si mauvais sujet.
« Sans doute, madame, dit Suzanne. J'espère que je n'offense pas madame, mais je vous prie, madame, le nom de madame n'est-il pas madame Sophie Weston ?»«
Comment est-il possible que vous me connaissiez ?» répondit Sophie.
« Cet homme qui est là-bas dans la cuisine, et dont madame, montrant Mrs. Honora, vient de parler, nous a entretenu de vous hier au soir.
Mais j'espère que madame n'est pas fâchée contre moi.
Non, mon enfant, dit-elle, je ne le suis pas. Je vous prie, dites-moi tout, et je vous promets de vous bien récompenser.
Eh bien, madame, continua Suzanne, cet homme nous a dit, à tous, dans la cuisine, que madame Sophie Weston, je ne sais en réalité comment vous le dire.
Ici, elle s'arrêta, mais, encouragée par Sophie et vivement pressée par Mrs. Honora, elle continua ainsi.
Il nous a dit, madame, quoiqu'assurément tout cela ne soit qu'un mensonge, que madame mourait d'amour pour le jeune gentilhomme, et qu'il allait à la guerre pour se débarrasser de madame. Je pensais alors en moi-même que c'était un misérable qui avait le cœur faux. Mais quand je vois en ce moment une aussi belle dame, si bien faite et si riche, abandonnée pour une femme ordinaire, car elle n'est rien de plus, sûrement, et la femme d'un autre par-dessus le marché, je trouve que c'est en quelque sorte une chose bien étrange et bien peu naturelle. »
Sophie lui donna une troisième guinée, et après lui avoir dit qu'elle lui ferait certainement du bien, si elle gardait le silence sur tout ce qui s'était passé et ne disait à personne qui elle était, elle la renvoya en la chargeant d'ordonner au postillon de préparer les chevaux au moment même. Restée seule avec sa fidèle suivante, elle lui dit qu'elle n'avait jamais été plus tranquille qu'en cet instant. « Je suis maintenant convaincue, ajouta-t-elle, que c'est non seulement un libertin, mais un être vil et méprisable. Je pourrais tout lui pardonner plutôt que d'avoir flétri mon nom d'une manière aussi cruelle. Cela le rend l'objet de mon mépris.
Oui, Honora, je suis tranquille à présent. Je le suis, je t'assure, je suis fort tranquille. » Et elle versa un torrent de larmes. Après un court intervalle, particulièrement employé par Sophie à pleurer et à assurer Mrs. Honora qu'elle était tout à fait tranquille, Suzanne rentra en annonçant que les chevaux étaient prêts. Alors notre jeune héroïne conçut une idée très extraordinaire, au moyen de laquelle M. Jones serait instruit qu'elle avait passé dans l'auberge, de manière à le punir au moins un peu de ses égarements, s'il restait dans son cœur quelque étincelle d'amour. Le lecteur voudra bien se souvenir d'un petit manchon qui a déjà eu l'honneur d'être cité plus d'une fois dans le cours de cette histoire. Ce manchon, depuis le départ de M. Jones, ne l'avait jamais quittée pendant le jour et couchait la nuit avec elle. Elle l'avait au moment même à son bras. Elle l'en arracha avec une vive indignation, et après avoir écrit son nom avec un crayon sur un morceau de papier qu'elle y attacha avec une épingle, elle obtint de Suzanne qu'elle le porterait dans le lit de M. Jones et la chargea, si elle ne l'y trouvait pas, d'imaginer quelque moyen de le lui mettre sous les yeux dans la matinée. Après avoir ensuite payé le mémoire du souper de Mrs. Honora, dans lequel était compris celui qu'elle aurait dû faire elle-même, elle monta à cheval, et après avoir une fois encore assuré à sa compagne de voyage qu'elle était parfaitement tranquille, elle poursuivit sa route.